Amar Lasfar est recteur de la mosquée de l'île Sud. Il est également imam. Avec lui, nous évoquerons les structures représentatives du culte musulman en France et en Nord-Pas-de-Calais, sa vision de la laïcité et les lois de 1901 et 1905 entre associations culturelles et associations cultuelles. Amar Lasfar, vous êtes donc recteur de la mosquée de Lille. Ça suffit pour vous définir, pour vous présenter ?
Ça suffit. Écoutez, une personne, c'est pas facile de la définir par une fonction. Donc, on est appelé à jouer plusieurs rôles et avoir plusieurs, je dirais, personnalités. Moi, d'abord, bon, je suis connu ici à Lille depuis maintenant une trentaine d'années. Que je suis à l'île Sud exactement, je n'ai pas bougé de l'île Sud depuis que je suis venu du Maroc, mon pays d'origine, pour faire des études en économie, en gestion des entreprises. J'ai fait un saut à un moment donné, ce que j'appelais à l'époque le retour définitif, donc une expérience de 6 mois, et puis je me suis retrouvé face à une situation qui est ce qu'on appelle la réintégration, un autre problème, la réintégration dans le pays d'origine. Beaucoup de choses me manquaient, la France me manquait, le contexte dans lequel j'ai évolué, j'ai fait des études ici. Donc j'ai un troisième cycle de gestion des entreprises. Et je suis revenu une deuxième fois, mais d'une façon définitive. Ça, c'était en 88. Et depuis, donc, je me suis mis à la disposition de la communauté à travers un certain nombre de structures et d'associations, notamment la mosquée de Lille. Je suis un des membres fondateurs de l'association et de la mosquée. L'association a été créée en 1982. Et la mosquée a été achetée en 86-87. Puis je suis membre de l'Union des Ordres Islamiques de France, membre du Rassemblement des mosquées de Nord-Pas-de-Calais, membre d'un certain nombre d'associations. Tout ça dans un cadre bénévole, parce que j'ai une vie en parallèle, une vie professionnelle, j'ai un agent de voyage, donc je tiens un certain nombre d'affaires, notamment dans le transport, dans le tourisme, dans la restauration, dans l'immobilier. Voilà un peu Amar Lasfar en deux mots.
Expliquez-moi, moi je ne connais pas trop les choses, et peut-être que nombre de mes auditeurs également ne savent pas. Il y a des choses, il faut prendre les choses à la base. C'est quoi le rôle d'un recteur ? C'est quoi un recteur ?
Un recteur, sa fonction, elle est d'abord administrative. Il est administratif entre guillemets, politique. On peut l'appeler ça politique, mais dans le sens de la représentation. Donc, il représente la communauté. C'est un peu, je dirais, la figure représentative de la communauté musulmane. C'est l'interlocuteur des pouvoirs publics. C'est le représentant administratif de la communauté. En parallèle, justement, de ma fonction de recteur, il y a ma fonction aussi d'imam. Je cumule les deux. C'est pas forcément cumulable. Hein. Donc, vous pouvez avoir un imam qui exerce en tant qu'imam pour ses compétences religieuses et théologiques, et vous avez un recteur, il est élu. Donc moi, je ne sais pas pourquoi, mais comme ça, depuis que je suis recteur de la mosquée, j'ai cumulé entre la fonction d'imam, peut-être parce que bon, la communauté estime que j'ai des compétences en matière théologique et religieuse, et en même temps, je suis le représentant de la Ligue islamique du Nord et de ceux qui se retrouvent, hein, je ne vais pas dire je suis le représentant de la communauté musulmane du Nord, loin de là, mais au moins de la Ligue et de toutes les associations et les structures qui se retrouvent dans la Ligue. Donc je suis un peu dire la facette religieuse et la facette administrative de la communauté.
Ça ne brouille pas le message entre le guide spirituel et le rôle justement politique ?
Non, parce que pour la simple et unique raison, nous on s'est interdit depuis que nous avons choisi ce créneau-là, je parle de nous, de l'équipe, toute l'équipe. Moi j'anime une équipe. Hein. S'il y a une réussite, c'est justement l'équipe à qui on doit cette réussite. On s'est interdit dès le début tout travail politique. Tout travail politique, mais dans le sens politicien du terme. Dans le sens de la politique, se présenter aux élections, se briguer des mandats, etc. C'est pas notre, je dirais, tasse de thé. Nous avons choisi un créneau culturel et social. On peut dire donc socioculturel et culturel. Bien sûr, quand on entend parce qu'à chaque manifestation, on essaie de l'interpréter politiquement. Non, on ne fait pas de politique. On n'a pas d'ambition politique, comme je viens de dire, mais cela étant dit, nous veillons à chaque rendez-vous électoral que les intérêts de la communauté soient préserver et sauvegarder. C'est-à-dire, j'entends par là, donc nous organisons des manifestations, nous interpellons les politiques, nous les invitons ici dans l'enceinte de la mosquée, nous interpellons dans la rue, nous organisons des manifestations telles que le dernier rassemblement pour essayer non pas d'apporter des solutions. On n'a jamais prétendu apporter des solutions, notamment à des questions politiques. Mais nous avons le droit et le devoir d'interpeller et de poser les questions parfois qui fâchent. Les questions, donc on interpelle un peu, puisque nous sommes le représentant de la communauté, on interpelle à la place de la communauté musulmane, qui est citoyenne, on interpelle le politique, charge à lui de répondre. Et en répondant, eh ben il a ce qui lui revient de droit, comme voix. On ne s'inscrit pas dans une logique communautaire de marchandage de voix. Vous nous donnez combien, en contrepartie, on vous donnera nos voix. Au contraire, nous vous posons les questions, pas forcément d'ordre religieux, hein, parce que nos problèmes sont d'abord économiques, culturels, éducatifs, scolaires, l'Europe, l'environnement, la santé, etc., dans, bien sûr, la spécificité religieuse qui nous touche. Et bien, quand on pose ces questions, le politique répond. Et en répondant, les voix musulmanes et non musulmanes se retrouvent dans les réponses des politiques.
Aujourd'hui, vous êtes recteur, il y a également le comité du culte musulman français et avec des organisations régionales. Pourquoi on a rajouté cette structure supplémentaire ? C'est-à-dire que les recteurs n'étaient pas les bons intermédiaires, il fallait rajouter quelque chose ?
Bon, le recteur de la mosquée d'Île Sud, il est quand même le recteur de la mosquée de l'Île Sud, d'une structure qui s'appelle la Ligue islamique du Nord. Et cette association, il est à côté d'une centaine d'autres associations. Chaque mosquée, il est géré par une association, 1901. Quasiment tout le temps, il n'y a aucune association qui dépend de 1905, malheureusement. On y reviendra peut-être tout à l'heure pour expliquer le pourquoi. Donc une association qui gère un lieu de culte. Or, les autorités, les pouvoirs publics et les autorités en général ont besoin d'un interlocuteur pour l'ensemble de ces structures, pour l'ensemble de ces mosquées, notamment dans la région. Donc ils ont besoin d'un interlocuteur national, ce qu'on appelle le CFCM, Conseil France des cultes musulmans, à la tête duquel il y a un président qui est monsieur le docteur Del Boubacar. Et il faut que, justement, qu'il y ait des représentants locaux, ce qu'on appelle le CRCM, le Conseil Régional du culte musulman, sur 22 régions de France, donc on en a 25 parce que l'Île-de-France, on l'a divisé en 3, donc 25 régions, dans chaque région, il y a un conseil de représentatif du culte musulman, et à la tête duquel il y a un président, un peu une autorité administrative musulmane de la région. Dans laquelle, elle est censée, hein, plus tard on va voir, est-ce qu'ils font leur travail comme il se doit ou pas, est-ce que le conseil, est-ce que le CRCM, le CFCM fait le boulot comme il se doit, mais ils sont censés aussi bien, le CFCM au niveau national que les CRCM au niveau régional, sont censés jouer ce rôle, un, de représentant de la communauté musulmane, de défenseur de ses intérêts et de représentant ou d'interlocuteur vis-à-vis des pouvoirs publics.
Vous avez l'impression aujourd'hui que ce travail n'est pas suffisamment fait ?
Pas suffisamment fait. Il faut dire que l'architecte un peu de CFCM et du CRCM, d'ailleurs n'est pas d'une même couleur politique, c'est le cumul d'un certain nombre d'expériences. Moi j'ai assisté à deux ou trois expériences. Déjà en 89, je faisais partie d'un conseil, ce qu'on appelle le CORIF, le conseil de réflexion sur l'islam en France, initié à l'époque par Pierre Jox, expérience socialiste. Juste après, Pasqua, ministre de l'Intérieur, qui a succédé au changement de majorité, il a mis au monde ce qu'on appelle la charte du culte musulman autour de la mosquée de Paris. Donc on a demandé aux musulmans de signer une charte. Puis juste après, Chevènement, donc une expérience en cours de gauche, M. Chevènement, qui a initié ce qu'on appelle la consultation, l'istishara. Cette consultation qui a été reprise par Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur, et qui a conclu, et qui nous a donné le CFCM. Donc vous voyez que l'organisation du culte musulman n'est pas de droite ni de gauche, et c'est le cumul de toutes ces expériences qui nous ont donné aujourd'hui le CFCM. Le CFCM, donc les musulmans ont quand même toujours rêvé d'un représentant dans lequel donc, ils se retrouvent. Moi, je trouve des excuses au travail non fait parce qu'il faut dire que c'est une structure jeune, récente, elle a 5 ans de vie. En 5 ans, on ne peut pas tout faire. C'est vrai, j'aurais bien aimé que le CFCM fasse plus son travail parce qu'aujourd'hui donc, le génie, l'architecte, je retourne vers le concepteur un peu de CFCM. Il l'a fait, bien sûr, pour sauvegarder, premièrement, c'est vrai, pour régler, mais entre autres, les problèmes de la communauté musulmane, mais surtout pour régler ses propres problèmes. À voir, je parle du politique. Donc le politique, quand il a pensé le CFCM, c'est d'abord pour avoir un interlocuteur fiable qui, en quelque sorte, engage la communauté musulmane dans une réflexion. Or, aujourd'hui, je vois que, en partie, on peut dire, en partie, que cette mission a été assurée. C'est-à-dire que la France a trouvé un interlocuteur. Mais est-ce que les musulmans ont trouvé un défenseur et un représentant ? La question, elle est là. Donc on peut dire que le CFCM et le CRCM ont réussi leur coup, je dirais, à 30%. Donc ils ont assuré la mission qui est aller serrer la main du président de la République le 14 juillet ou aller serrer les mains du préfet quand, dans des cérémonies officielles. Et voilà, nous avons un représentant du culte musulman régional et national. Mais est-ce que les musulmans, un, se retrouvent dans le CFCM, dans le CRCM, je pense que ce n'est pas encore fait. Et est-ce que ce CFCM défend les musulmans ? Je dis que malheureusement, ce n'est pas encore fait. La preuve, c'est que quand on a vu la loi du foulard, la loi du signe religieux, entre guillemets, mais la loi contre le foulard, le CFCM était complètement absent.
Amar Lasfar, recteur de la mosquée de l'île Sud.
Vous évoquiez tout à l'heure également la différence entre les associations loi 1901, loi 1905, où on a la différence des associations cultuelles. Nombre de mosquées donc sont gérées par des associations de loi de 1901 et vous le regrettiez. Vous pouvez revenir sur ce
bien
point
sûr, bien sûr, je le regrette parce que la loi 1901 est une loi générale. C'est elle qui régit les associations culturelles, les clubs sportifs, les partis politiques, les fondations, etc. Et or, nous, en tant que religion, quand même, il y a une loi dans ce pays qui est 1905, c'est une loi cultuelle, et c'est une loi de la République qui sépare le politique du religieux. Et c'est elle dont dépend aujourd'hui quasiment toutes les structures religieuses de notre pays. Or, il se trouve que dans les années 80, quand les associations musulmanes commençaient à émerger, là c'est le phénomène, le boom associatif, c'est à partir de 1981 exactement, parce que 1981, on a libéré un peu la loi 1901 qui était exclusivement réservée aux Français, et les étrangers n'avaient pas le droit de s'associer. Donc après, quand on a libéré cette loi-là, eh bien, on commence à voir la création des associations. Et le législateur, en quelque sorte, orientait les musulmans vers 1901, vers un cadre général. C'est-à-dire que ce ne sont pas des associations religieuses, c'est des associations d'ordre général. Et d'ailleurs, si vous faites un peu une étude rétrospective, on peut dire, vous allez voir que la plupart des associations créées dans les années 80 portaient des noms qui n'ont pas de résonance musulmane. On trouve pas le mot islamique aux musulmans. L'association socioculturelle telle, l'association d'alphabétisation telle, l'association... On essaie justement de mettre devant la culture, le culturel, le social, mais pour cacher une activité purement religieuse. Pourquoi ? Parce que la loi 1901, justement, n'était pas le cadre adéquat pour ce genre de choses. Mi-90, fin 90, on commence alors à voir franchement des associations purement musulmanes, la Ligue islamique du Nord, claire, l'association des musulmans de Aluin, l'association des musulmans de Mons, commence maintenant à s'afficher en tant que telle et à assumer notre affichage. Et nous demandons jusqu'à aujourd'hui, est-ce que le culte musulman soit régi par 1905 ? Parce que nous avons la loi 1905, certes, elle a défini les deux sphères privées et publiques, mais elle est généreuse en matière de droit notamment. Donc les droits que procure 1905 sont largement supérieurs à ceux que procure 1901. D'ailleurs, 1901 ne procure rien, ne serait-ce que l'exonération de la taxe foncière, ne serait-ce que les dons qui ne sont pas soumis aux impôts, un certain nombre d'avantages que procure 1905. Et aujourd'hui, le débat, il est ouvert. D'ailleurs, nous, on s'apprête ici à la mosquée de Lille de nous transformer en 1905.
Le tout dans un État laïque. Vous avez l'impression aujourd'hui que la France remplit entièrement les critères de laïcité qui doit la régir ?
Qu'est-ce qu'on entend par la laïcité justement ? Il y a, à mon sens, il y a deux laïcités. Il y a ce qu'on appelle la laïcité de juridique, hein, auquel tout le monde adhère. Et d'ailleurs, la laïcité est d'abord un cadre juridique. Il ne peut pas être une idéologie. Alors aujourd'hui, ce qu'on voit dans la rue, justement, ce qu'on entend dans la bouche d'un certain nombre de responsables, c'est que la laïcité est l'anti-religieux, est une religion à elle seule. C'est une idéologie. C'est un ensemble de valeurs, je ne sais pas quoi. Moi, je dis, mais non. Ce que j'ai appris, moi, en tant que... c'est vrai, avant même que je vienne ici, en France, j'ai su qu'est-ce que c'est que la laïcité, parce que j'ai fait des études dans mon pays d'origine. Mais quand je suis aussi, quand je suis arrivé en France, eh ben, quand je lis l'histoire de notre pays, l'histoire d'Europe en général, je vois, premièrement, le sens qu'on a donné à la laïcité en France, il ne fait pas l'unanimité, mais voilà, la majorité au niveau européen. Donc il y a plusieurs sens. Entre l'Allemagne et la France, entre la Grande-Bretagne et la France, entre les Pays-Bas et la France, il y a une grande différence entre la laïcité dans les autres pays et la laïcité à la française. La laïcité à la française, malheureusement, ce n'est pas uniquement un cadre de neutralité, un cadre de séparation, un cadre de juridique, mais au-delà de ça. Ben, quand j'entends, quand je vois la laïcité comme un cadre juridique, moi, en tant que musulman, je m'épanouis à merveille. C'est le cadre qui a permis aux catholiques de continuer à exister. D'ailleurs, il faut dire les choses telles qu'elles sont. La laïcité est un compromis, c'est un sur-mesure entre la République et l'Église catholique. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais malgré ça, nous, on n'a pas demandé, on n'a pas exigé une autre loi. Parce qu'on n'a pas eu de conflit, nous, avec la République. La République, quand on était les invités de la République à un moment donné, puis on ne sait plus dans ce pays, et on a accepté les lois telles qu'elles sont, sans aucun amendement, sans aucune révision. Nous ne demandons pas ni l'aménagement de la loi 1905, ni sa révision, ni rien. Nous demandons d'abord l'intégration de cette loi, tout d'abord. Parce qu'on sait très bien que cette loi qui a permis aux catholiques, aux autres cultes d'exister et d'évoluer, elle est le cadre adéquat pour aussi que l'islam s'épanouisse dans ce pays. Mais ce qui nous pose problème, ce sont ces lectures de laïcité. La laïcité au sens dogmatique, au sens idéologique, elle pose problème. Je ne peux pas adhérer à une idéologie qui s'appelle la laïcité, parce que j'en ai une. Je ne peux pas adhérer à une religion qui s'appelle la laïcité, parce que j'en ai une. Seulement, moi, j'adhère au cadre tracé par la laïcité et je m'engage à assumer mes responsabilités avec les autres, accepter l'autre, discuter avec l'autre, adhérer à la séparation de l'Église et de l'État, à la mosquée et de l'État, tout ça pour moi, donc je l'épouse. Mais quand on me dit non, la religion et la laïcité font deux, je dis non, je peux être religieux et laïque en même temps. Religieux de ma sphère privée et laïque dans la rue. Et ce n'est pas un face-à-face. Choisissez, est-ce que vous êtes un religieux ou un laïque ? Non, on peut être religieux et laïque en même temps, ça dépend justement des sphères.
Dans la première partie de mon entretien avec Amar Lasfar, recteur de la mosquée de l'île Sud, nous avons évoqué la laïcité. À Lille, il y a 3 ans, ouvrait le lycée privé musulman Averroès. Retour sur la création de ce lycée et sa place aujourd'hui au sein de la communauté musulmane avec Amar Lasfar.
Écoutez, le lycée, il faut dire les choses. Donc nous avons pensé dès le début à avoir des structures, et on a commencé par les plus faciles. La structure la plus facile, c'est la mosquée. Plutôt, on a répondu à la demande urgente. La demande urgente dans les années 80, quand les musulmans sont sortis du cadre du voyageur. Vous savez, dans la religion musulmane, il y a ce qu'on appelle le statut du voyageur et le statut du sédentaire. Le sédentaire est tenu de pratiquer un certain nombre de choses. Le voyageur, il bénéficie de beaucoup de dérogations. Il peut rompre le jeûne, il peut ne pas jeûner. Il est dit dans un verset. Dans le deuxième chapitre de La Vache, en disant que si vous êtes en voyage, vous n'êtes pas tenu de jeûner. Il est autorisé aussi à rassembler les prières, et non pas à prier en temps et en heure. Parce qu'il a un statut de passager, parce qu'il a un voyageur. Les musulmans, fin 70, début 80, sont sortis du cadre du voyageur, sont devenus des sédentaires. Leur devoir vis-à-vis de la religion s'est accentué en quelque sorte. La demande urgente à laquelle il fallait répondre, c'est des lieux de culte. Ou prier, on les a assurés en grande partie. Puis, des lieux d'enseignement de la langue du Coran, pour ne pas dire la langue arabe, mais la langue du Coran, parce que souvent on assimile la langue arabe donc à des arabes, etc. Nous, quand on prend la langue arabe, moi quand je parle la langue arabe, c'est en tant que français que je la parle. Et mon enfant, je lui apprends l'arabe en tant que français, quand on est citoyen français, l'arabe en tant que langue du Coran, pour qu'il apprenne, pour qu'il s'approvisionne justement, pour qu'il lise le texte, qu'on ne vient pas lui inculquer quoi que ce soit, mais il a justement cette arme, cet instrument, cet outil qui lui permet de lire lui-même les textes. Et bien donc on a assuré le cultuel, on a assuré l'éducatif et le scolaire, et on commençait à toucher un peu au social, aux associations de jeunes, d'étudiants, de femmes, voilà. Et puis, à un moment donné, donc c'est un parcours normal. On commençait à penser aussi, pourquoi pas des écoles, pourquoi pas demain, des dispensaires, des universités, parce que c'est une évolution normale d'une communauté. Et à l'instar des autres communautés, quand on voit les catholiques, ils ont des écoles d'ingénieurs, ils ont des facultés, ils ont, etc., ils ont des hôpitaux, etc., et bien la communauté musulmane ressemble un peu, ne crée pas l'histoire, il ne crée pas le monde, il ressemble un peu à d'autres religions. Ça a coïncidé, bien est-ce que c'est le hasard aussi, ça a coïncidé avec l'affaire du foulard. L'affaire du foulard a accentué, en quelque sorte. Le dossier était plus ou moins reporté, parce qu'il y avait des urgences, donc le cultuel, l'éducatif, le scolaire, etc. Mais l'affaire du foulard a... L'affaire du foulard, qu'est-ce qu'il y a derrière l'affaire du foulard? C'est la fille, c'est la femme musulmane. C'est pour cela qu'à Averroès, et tous les établissements qui viendront privés dans l'entreprise sont maintenant trois, maintenant deux sur Paris, un sur Lyon et un sur Lille. Quatre établissements scolaires. Dans une période de 5 ans. Et bien, tous ces établissements-là, on les doit à la femme. Et la femme ne peut qu'être fière, justement, parce qu'il a bouleversé l'ordre des choses. Donc, il a dit, oui, cultuel, j'adhère. Mais, écoutez, il faut des établissements. Et l'affaire du foulard s'est posée avec beaucoup d'insistance. On a dû, nous, les structures musulmanes, notamment la Ligue, bouleverser un peu, brusquant un peu notre ordre des choses. Et on s'est dit, pourquoi pas un établissement. C'est vrai, quand on a lancé l'idée en 94, on ne savait pas de quoi il s'agit, même si on était des enseignants. Moi, j'étais enseignant. L'équipe aujourd'hui d'Averroès sont tous des enseignants. Donc, on est parti. Donc, c'est un public qui sait très bien qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il attend. Mais quand on a lancé en 94 l'idée d'un établissement scolaire, puis quand on a commencé à ouvrir le dossier et à préparer, ça nous a pris 10 ans. 9 ans exactement, de 94 à 2003. Donc, 10 ans de préparation pour qu'on ouvre en 2003. Et malgré cela, en 2003, quand même, on a eu nos tripes entre nos mains, parce qu'il s'agit de l'avenir des élèves. On avait soufflé un ouf de soulagement que 3 ans plus tard, quand la première promotion a passé le baccalauréat. Et on s'est retrouvé, Dieu merci, avec un résultat honorable à l'époque, 75% de réussite. La deuxième année, on l'a confirmé avec la deuxième promotion, 86%. Et cette année, bientôt, dans 2 mois, on passera justement, la troisième promotion passera le baccalauréat. Donc le lycée, normalement, il devait s'inscrire dans une logique d'intégration des musulmans dans ce pays. Alors ils sont appelés à développer, à multiplier les structures dans les structures scolaires. Mais la femme musulmane, elle était pressée, elle est venue, il nous a un peu bousculé pour qu'on mette tout de suite à exécution le projet du lycée.
Pourtant, malgré le besoin, le cadre normal de l'installation de ce lycée, ça avait déchaîné quand même les passions à l'époque, notamment autour de la nomination, je me souviens du directeur, du choix de la personne. On a dit, attention, on est en train de monter une école peut-être coranique à Lille, quelque chose de, on va nous former, je vais grossir le trait, mais les terroristes de demain.
Écoutez, on est vraiment dans le plein du fantasmatique. Aujourd'hui, en France, il y a quelque 3500 mosquées. Dans chaque mosquée, il y a une école coranique. Donc on a d'emblée 3500 écoles coraniques. Quand on rajoute une qui s'appelle Averroès, 2 mois de plus, ça ne change rien. Et je ne pense pas, parce qu'un jour, il m'a été posé cette question-là par une journaliste, et je lui ai dit, écoutez, vraiment, merci pour le compliment, parce que vraiment, je prends ça comme une insulte au diplômé que je suis de l'IAE, l'Institut préparatoire aux affaires. Il s'appelait à l'époque IPA, IAE, Institut préparatoire aux affaires, Institut d'administration des entreprises. J'ai un diplôme supérieur spécialisé dans la gestion et l'administration des entreprises. Eh bien, le gestionnaire que je suis, je vais dépenser 400 000 euros de budget par an pour Averroès. Il me revient à 400 000 euros pour que j'ouvre une école coranique qui ne me coûte rien, qui ne me coûte normalement rien. J'en ai une, laquelle il y a 920 élèves qui viennent samedi, dimanche, et ces élèves payent pour qu'ils viennent apprendre le Coran. Les gars du lycée, pour moi, le budget, il est à 95% supporté par la communauté, Donc l'élève, même s'il paye mais quelque chose de dérisoire, eh bien écoutez, merci pour le compliment, parce que franchement, c'est un projet raté d'avance. Donc si je veux ouvrir une école coranique, mais je l'ai, j'ai 900 élèves qui suivent le... Je veux ouvrir un lycée tout court. À la limite, ce n'est pas le privé et le musulman, ce n'est pas ça que je mets au devant. Et d'ailleurs, les résultats ont prouvé en quelque sorte ce que nous voulons former les cadres universitaires demain. Nous avons 4 élèves ingénieurs qui font prépa, l'école prépa. Nous avons 5 ou 6 étudiants à la fac de médecine. Nous avons les étudiants à l'école notariale. Ils sont à la fac de droit. Là, je peux dire, Amar Lasfar, en regardant dans une glace, franchement, tu as assuré ton truc parce que tu n'as pas formé des imams. Je ne suis pas là pour former des imams par averroès. Je les forme autrement. Moi, j'assume ce que je fais. J'ai des structures. Parce que la laïcité me dit, à chaque formation, une structure adéquate. On ne peut pas faire avec une structure religieuse, on forme les élèves avec une structure religieuse. On ne peut pas, avec une structure sociale, assurer le culturel. La Ligue islamique du Nord, elle est d'abord une structure culturelle. C'est elle qui assure le domaine culturel. L'ACS, Action culturelle et sociale, c'est elle qui assure l'enseignement de la langue arabe. Elle est complètement laïque. Le lycée Averroès, c'est l'enseignement. L'Institut des sciences islamiques, c'est les études notamment approfondies en matière religieuse. La maison du Coran, pour apprendre aux jeunes imams de demain la mémorisation du Coran par cœur. Chaque structure est là, justement, un objectif bien précis, il a une équipe. Et entre les structures, c'est vrai, il y a un fil conducteur qui s'appelle Amar Lasfar. C'est tout à fait normal, parce qu'Amar Lasfar est le recteur de toutes ces institutions. Il veille à ce que ces structures, bien sûr, aboutissent et réalisent leur objectif. Donc moi, je dis que Averroès est d'abord, et d'ailleurs exclusivement, un établissement scolaire.
Entretien avec Amar Lasfar, recteur de la mosquée de l'île Sud.
On a quand même un paradoxe où plus les initiatives et les réalisations sont là afin de pouvoir vivre et puis pratiquer librement son culte, de pouvoir former, plus ça génère des phénomènes d'inquiétude ou de rejet pour l'autre, pour le non-musulman. Vous le sentez ça ?
C'est compréhensible, on le ressent, c'est compréhensible. Parce que non, il faut dire, il y a les choses telles qu'elles sont, il y a les choses telles que nous souhaitons qu'elles soient, voilà. Mais entre ce que nous souhaitons et ce qui se passe, il y a une sacrée distance. Moi, je dis qu'une réaction de rejet est un phénomène normal. En médecine, quand on greffe un organe dans un corps, la première réaction, même cet organe, il est indispensable pour le corps le rejette. C'est une réaction normale. Charge justement au médecin d'essayer d'expliquer via tout un processus thérapeutique, via des accompagnements, des médicaments, pour expliquer au corps, mais en fin de compte, c'est un organe qui va vous enrichir. Et avec le temps, une fois que le corps commence à s'habituer avec l'organe, alors il va se l'approprier, il va l'adopter et il fera partie du corps. Et l'organe renforcera le corps. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes une culture nouvelle. Nous sommes une religion nouvelle, nous sommes une minorité, on vient de déclarer, mais d'une façon définitive et irréversible, que nous faisons partie de la société et que nous sommes des Français et qu'on a rompu avec l'idée du retour dans un bled je ne sais pas où. Et bien tout ça, elle est récent. La société qu'il manifeste des inquiétudes, c'est tout à fait légitime et normal. Charge non pas à la société de faire un effort pour nous comprendre, charge à nous de faire ce qui doit être fait pour qu'on explique à la société. Je parle dans la mouvance générale. Mais il y a des gens de la société qu'on appelle les racistes, qu'on appelle ceux qui ne souhaitent la bienvenue à personne. Eh bien, ceux-là, on ne peut pas les convaincre. Mais Dieu merci, nous vivons dans une société très généreuse. Ils sont très négligeables, ce genre de personnes. Ce n'est pas la peine de perdre du temps à expliquer à un raciste, ce que j'appelle moi un raciste viscéral, d'expliquer quoi que ce soit. Mais l'immense majorité de notre concitoyen n'aspire qu'à être rassuré. Parce que ils sont bombardés dans le journal de 20h par ce qui se passe en Iran, en Afghanistan, en Algérie, en Palestine, partout. Alors ils ne se retrouvent pas. Et ils disent qu'en fin de compte, nous avons nous aussi des bombes à retardement. Nous avons aussi la cinquième colonne de tel ou tel. Et bien on leur dit, okay, prenez le temps, regardez-nous, vous allez voir que nous sommes loyaux vis-à-vis de notre pays, la France, que nous sommes d'abord des citoyens, et non pas d'abord des musulmans, que nous sommes d'abord des citoyens. quand nous partageons le socle commun avec tout le monde, avec les 65 millions de citoyens français, mais dans un cadre privé, nous avons une spécificité, une particularité que d'autres ont, bien sûr, qui est la religion musulmane. Donc voilà, charge à nous de rassurer justement cette société, de lui dire qu'en fin de compte, rassurez-vous, ni la mosquée, ni le lycée, ni l'école ne vont être gérés de la même manière qu'ils sont gérés d'ailleurs dans je ne sais pas où, et ils ne sont la vitrine d'aucun mouvement, et ils ne sont loyaux d'aucun leader ou d'aucun je ne sais pas qui engagerait la France ou les communautés musulmanes de France dans une guerre contre l'Occident, contre quoi que ce soit.
Souhaiter que les politiques qui s'adressent généralement au peuple, justement, relaient ce message. Et je parle là, je veux dire, des partis nobles. Hein. On va laisser de côté tous les extrêmes. Est-ce que vous avez l'impression que ce discours, il est suffisamment relayé, justement, par ces groupes politiques, et que ce soit de droite ou de gauche ?
Non, pas suffisamment. Pas suffisamment. Parce qu'à chaque fois qu'on a affaire justement à des politiques, il faut dire, moi je ne fais pas un procès pour les politiques, mais il faut dire que le politique est d'abord à l'écoute, je dirais à l'écoute, non, est d'abord le reflet en quelque sorte, ou le porte-parole de son électorat. Voilà. Et ça, c'est malheureux de le dire, hein. Sont pas nombreux ceux qui ont des prises de position claires et sont allés même à mettre leur monde en jeu et à le sacrifier, le cas échéant, pour rester justement sur des prises de position claires. Ils sont pas nombreux, ces politiques, ce qu'on appelle les politiques nobles, les politiciens nobles. Mais la plupart, justement, des politiques, parce que tout le monde aujourd'hui surfe sur la peur, et bien même le politique, il surfe sur la peur de l'islam, la peur des musulmans, la peur de l'intégrisme. Et lui aussi, parce que moi, quand j'ai affaire à un politique... que j'ai affaire à un citoyen lambda, il mélange entre l'islam, l'islamisme, l'intégrisme, le terrorisme, etc. Mais quand j'ai un politique en face de moi qui me parle ce discours, je lui dis, mais écoutez, quand même, vous, c'est pas vous. Je ne vous trouve pas d'excuses parce que c'est de l'amalgame que vous faites. Vous surfez sur la peur, vous continuez encore à faire peur à la société. Et malheureusement, ils ne sont pas nombreux, ces politiques qui relaient. Parce que le discours que je vous dis est un discours qui a une trentaine d'années parce que nous avons évolué. Amar Lasfar n'était pas d'aujourd'hui, n'est pas celui des années 80. Nous avons beaucoup évolué. On a commis des erreurs à un moment donné. On se les corrigeait. Et avec le temps, on a fait de l'ordre dans notre vie, dans nos vocations, dans notre travail. On a évolué. Les musulmans évoluent à un rythme qui dépasse celui de la République vis-à-vis d'eux. Alors quand aujourd'hui un ministre il me parle des mosquées des caves, j'étais dans une journée de formation à Paris au sein du ministère de la ville, mais je lui ai dit écoutez, mais vous avez une vingtaine d'années de retard, les mosquées garages n'existent plus en France, les mosquées des caves n'existent plus, sortez, regardez, vous allez voir, ce sont des mosquées qui ont pignon sur rue, et les musulmans ont fait un effort, et ils ne diront merci à personne, y compris à la République. C'est pas la République qui les a sortis des caves. C'est eux, avec leur propre effort, avec leur propre argent, ils n'ont coûté rien, ils n'ont coûté aucun centime aux contribuables, et il faut saluer justement cette évolution. Il faut encourager cette évolution. Et aujourd'hui, les musulmans, on leur offrait l'intégration, aujourd'hui, ils sont des citoyens. Ils dépassent l'intégration, ils disent que je suis moi citoyen. Ils assument leur devoir. Moi, je n'oublierai jamais quand on a été invité par le président de l'époque, de 1991, par le président de l'époque, François Mitterrand, pour nous décorer et pour nous remercier, et à travers nous, remercier la communauté musulmane de France pour les prêches du vendredi qui allaient dans le bon sens. 1991, la France était en guerre contre l'Irak, donc il faisait partie de coalition. Et à l'époque, tout le monde tablait sur Sayyid Saddam Hussein, il tient la communauté musulmane de France et du monde entre ses mains. Rien ne s'est passé de cela. Les musulmans ont fait preuve de leur sang-froid, de leur loyauté vis-à-vis de leur pays qui est la France, et ils ont su traverser cette épreuve. C'était une lourde épreuve en 91. Et puis d'autres épreuves, la première affaire du voile, la deuxième, la troisième, l'affaire Rojdi, l'affaire Taslima Nasrin, l'affaire de la dernière députée somalienne, de l'iranienne intellectuelle soi-disant qui est venue ici en France nous apprendre la démocratie. Toutes ces épreuves, les musulmans ont su justement les traverser. Parce qu'ils savent très bien leurs priorités, ils savent très bien leur combat, c'est quoi ? C'est d'abord un combat pour l'intégration ici dans ce pays. Et la réussite, elle est d'abord la réussite scolaire. Ils veulent que leurs enfants réussissent leur scolarité. Et puis, ils assument leur appartenance à la religion, tout simplement.
Dernière partie de mon entretien avec Amar Lasfar. Amar Lasfar, recteur de la mosquée de Lille, à qui j'ai posé cette question,
Existe-t-il un phénomène islamophobe en Nord-Pas-de-Calais plus présent en 2008 qu'il y a quelques années? Amar Latsouar.
Il y a une réalité. Ce n'est pas moi qui l'invente, elle est là. Le président de la République, Jacques Chirac, à l'époque, il a fait justement de sa campagne, il a fait du terme de l'exclusion et de la fracture sociale, sa campagne. C'est elle qui l'a permis, d'être réélu une deuxième fois. Et moi, je partage cette analyse. Il y a de l'exclusion dans notre pays. De l'exclusion avec un E majuscule, donc qui n'épargne personne. Mais comme nous sommes les vulnérables de la République, eh ben, la moyenne qui se trouve au niveau national, chez nous, elle est multipliée par 2 ou 3. Elle est multipliée par un fameux coefficient multiplicateur, si on ose parler comme Keynes, le fameux cas. Eh ben, le chômage, quand il est, on a une moyenne de 7 à 8%, ici à l'île sud, il est 35%. C'est la même moyenne qui se trouve et qui touche tout le monde, mais quand il touche le vulnérable, eh ben, il n'a pas justement suffisamment d'anticorps pour faire face. Et l'exclusion devient quelque chose de spectaculaire. La fracture sociale, de spectaculaire, chez la communauté musulmane et chez les citoyens de confession musulmane. Donc voilà un peu ce qui explique le racisme. Nous avons un taux de racisme en France, maintenant, qui s'amenuise tout doucement, avec notamment notre président de la République, Sarkozy, qui a fait justement de son combat contre Le Pen, et il a réussi d'ailleurs, il faut dire il a réussi, mais bon, à quel prix ?
Il n'a pas un peu banalisé les idées également de l'extrême droite pour gagner cette guerre ?
Voilà, à quel prix ? Voilà. Donc il nous a tapé dessus pour avoir les voix du Front National. On le dit, mais pourquoi sacrifier un front musulman pour avoir le Front National ? Il vaut mieux être bien avec tout le monde. Et d'ailleurs, le dérapage médiatique, le dérapage verbal du président de la République pendant sa campagne électorale, ça nous a fait beaucoup de mal, beaucoup de mal. Donc on le rappelle au passage. Ce racisme-là, cette moyenne de racisme dans notre pays, quand il s'adresse vers une communauté vulnérable que nous sommes, il devient plus que la moyenne. Voilà. La ségrégation en matière d'emploi, l'exclusion en matière d'emploi, ce qu'on appelle, c'est pour ça qu'on a inventé les CV anonymes, les entretiens, anonymes, et on a même sorti des lois qui sanctionnent. Mais la réalité, elle est là. C'est pas moi qui l'invente, elle est là. Et puis, ce qui est nouveau dans le phénomène, c'est ce qu'on appelle le racisme vis-à-vis d'une religion. Ce qu'on voyait, ce qu'on constatait, c'est un racisme primaire, comme ça, vis-à-vis de personnes, vis-à-vis de leur faciès, de leur couleur. Aujourd'hui, c'est un racisme, un rejet vis-à-vis d'une religion. On l'a diabolisé. Peut-être ceux qui sont de l'autre côté, une partie des musulmans ont participé justement à la diabolisation, avec leurs gestes irresponsables. J'entends par là ceux qui prétendent avoir fait des attentats par-ci, par-là. Mais donc le fait que l'islam a été diabolisé dans pas mal de pays, eh bien ici en France, je pense qu'il y a une volonté de continuer à diaboliser. On a commencé par les islamistes, par les extrémistes, par les intégristes, pour arriver tout court aux musulmans. Aujourd'hui, donc, le musulman, il passe pour une personne qui n'appartient pas à ce monde et une personne, au moins, point d'interrogation dessus, à qui on ne peut pas faire confiance. Et ça, je pense qu'il y a une volonté qui est nourrie par un certain nombre de déclarations, notamment médiatiques. Une partie, Dieu merci, elle n'est pas majoritaire, mais une partie de la presse européenne et française surfe sur ça. Quand un rédacteur en chef d'un magazine déclare que je suis un islamophobe et je l'assume, voilà, donc il a ouvert la porte. Donc aujourd'hui, il est strictement interdit d'être un antisémite en France, il y a des lois qui répriment, et il est strictement interdit d'être un homophobe. Ici en France, il y a des lois, nous avons notre cher député de Tourcoing, il a payé cher, mais il n'est pas interdit d'être un islamophobe. Voilà, et on attend justement une loi. On attend une loi qui sanctionne les islamophobes, ceux qui sont contre la religion musulmane, ceux qui sont contre l'islam. Vous pouvez être contre moi, vous avez le droit à la démocratie, vous le permettez. Ceux contre Amar Latsouar, mais bien sûr, moi c'est tout à fait normal. Mais quand au-delà de ça, je suis contre une religion, ça c'est du racisme vis-à-vis d'une religion. Et aujourd'hui, le climat, il est là. C'est un climat malsain, nourri par les caricatures qui ont des échos par la suite, le film. Le film s'appelle La Fitna. En arabe, c'est la discorde en français. Donc il y a une volonté derrière le film. C'est pas comme ça La Fitna. La discorde, nous voulons, donc le metteur en scène ou le producteur du film voulait créer la discorde. Et avant lui, il y a aussi un livre qui s'appelle La Fitna, le livre de Gilles Kepel. La Fitna, le même titre. Donc on va lire le livre de Gilles Kepel, mais il est en train de justement d'appeler les musulmans à s'entretuer. Il est allé déterrer des guerres fratricides entre des groupes de musulmans dans le 1er et le 2e siècle grégorien, ça fait maintenant 14 siècles, pour nous dire, voilà les musulmans comme ils étaient, ils ne peuvent que continuer à être comme ça. Écoutez, Gilles, 14 siècles, quand même. Sinon, on vous sort aussi la Première Guerre mondiale, 20 millions de morts. On va dire que vous êtes des barbares, vous les Européens. Vous êtes entretués pendant, en deux guerres, c'est-à-dire même pas 20 ans, 20 millions de morts. Non, on dit que l'histoire ne peut pas être présente dans chaque déclaration, ne peut pas être présente dans chaque décision. Il faut parfois oublier un peu ce qu'on appelle les brûlures de l'histoire. Ce climat malsain, c'est le climat qui aspire, plutôt qui inspire ceux qui ont profané le carré musulman, le carré israélite, le carré kada. Et c'est un peu ce climat malsain, c'est le terreau de tout ça. Et c'est pour ça que ma première déclaration que j'ai dite, arrivée à Notre-Dame de Lorette, je dis oui, je dénonce en même temps que vous, voilà, nous dénonçons. Mais est-ce que dénoncer, ça suffit? Mais qui est-ce qui va être dénoncé? Est-ce que celui, l'exécutant, ou celui qui a participé à la mise en place de ce climat malsain? Parce qu'aujourd'hui, si on dit à ceux qui nous ont insultés à la télé, mais c'est normal, la liberté d'expression, que dire de ces personnes? Si on considère que l'insulte est une liberté dans ce pays, eh bien, celui qui sont venus la nuit, peut-être la seule chose qu'on va leur reprocher, c'est qu'ils ont profané des tombes. Mais ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que Mahomet, voilà, ils ont dit que l'islam, donc ils ont dit ce que le film La Fitna a dit, et ce que les caricatures ont dit, tout simplement.
Il y a également, quand même, vous parliez des brûlures de l'histoire, il y a quelque chose qui trouble quand même terriblement ce discours, c'est la situation israélo-palestinienne, et on n'en sort pas. Quand on arrive ici à la mosquée, on le comprend, il y a les appels aux dons pour ce qui se passe là-bas à Gaza, avec cette situation sanitaire qui est effroyable. Pensez que tant que la communauté internationale n'est pas capable d'avoir suffisamment de courage pour aller là-bas essayer de régler au mieux et puis d'avoir une position claire, affichée et un soutien pour un retour à la paix, ne serait-ce que ça, et puis entamer véritablement peut-être un processus, reprendre pour arriver à une solution durable, pensez que ça contribuera ça également à troubler le message et à opposer, je veux dire, un camp à l'autre et après localement des communautés à des autres?
Bien sûr, ça participera à l'apaisement, en quelque sorte. Donc, trouver une issue honorable et juste et durable pour le problème israélo-palestinien ne peut que participer. Mais il ne faut pas se leurrer. La Palestine n'est pas la clé des problèmes du monde. Le problème palestinien n'est pas la clé des problèmes. Il y a une instabilité aujourd'hui dans le monde. Peut-être la Palestine, l'affaire palestinienne, le problème israélo-palestinien participe. Nous avons l'Irak qui excède de loin la Palestine. La Palestine, c'est une affaire de quelques kilomètres carrés. Mais nous avons l'Irak, nous avons l'Afghanistan, nous avons le Liban. Donc il n'y a pas que la Palestine. Peut-être on peut le résumer dans le Moyen-Orient en général, le cœur de la planète. Mais il faut dire que ceux qui ne veulent pas de l'autre trouveront un prétexte. C'est vrai quand on règle le problème de la Palestine, problème de l'Irak, de l'Afghanistan, c'est loin d'être réglé. Mais au moins, on ne trouvera pas celui qui prend la situation ou le conflit israélo-palestinien, Irak, Afghanistan, comme prétexte pour faire quoi que ce soit. Mais il ne faut pas se leurrer, les problèmes sont parfois économiques. Ici, en France, moi je dis que nos problèmes sont d'abord économiques. S'il y avait le plein emploi, on n'aurait pas ce problème de racisme, notamment dans les rues. D'abord, c'est le chômage qui a créé beaucoup de problèmes. Il fut un temps où, durant les 30 glorieuses, il n'y avait pas de problème dans notre pays. Tout le monde travaillait, tout le monde vivait à l'aise. Il n'y avait pas de problème dans notre pays.
Mais tout le monde travaillait, mais moi je les rencontre encore, ces mineurs notamment, ou femmes de mineurs arrivent à l'époque, qui ont appris le français durant ces 10 dernières années. C'est-à-dire qu'ils travaillaient, mais ils étaient un petit peu, on créait des petits Marocs, des Algéribis, on ne pouvait pas parler de société véritablement.
Mais la société de l'époque, elle aussi, elle était ce qu'elle était. Elle a évolué, toute la société a évolué. On parle des années 60, des années 70, mais il faut dire que les années 60 et 70, par rapport à maintenant, il y a une grande différence. Toute la société a évolué et les composantes de la société, notamment les communautés, ont évolué. Moi, je dis que l'économique, le social, ils peuvent être des facteurs d'explication fondamentale de ce que nous vivons. En plus du facteur exogène, facteur étranger, notamment la Palestine. Mais je n'accepterai jamais qu'on me dise, une fois que la Palestine, le problème de la Palestine est réglé, les problèmes des musulmans sont réglés. Loin de là, on aura un autre pays, donc le monde arabe, la Ligue arabe, on comptera un pays de plus. Voilà, et d'ailleurs, l'autorité palestinienne y siège déjà à la Ligue arabe. Donc on aura un pays de plus qui s'appellera la Palestine, ni plus ni moins. Ceux qui veulent expliquer tout par le fait palestinien, moi je le relativise. C'est pour cela que je dis, aujourd'hui en France, on ne va pas nous dire que l'antisémitisme, parce qu'on a tendance aussi à prendre tout ce qui se passe ici en France, que les musulmans de France sont antisémites. Nous, parfois, c'est parfois, souvent, le problème de la Palestine, il vient pour nous en deuxième lieu. Nous avons nos propres problèmes, nous avons la propre Palestine ici. Nous avons nos propres problèmes, ils sont d'ordre économique, social et politique. Bien sûr, on a une sympathie vis-à-vis de la Palestine. Bien sûr, on participe au chagrin des Palestiniens, on partage le chagrin des Palestiniens. Bien sûr, on essaie de leur apporter quelque chose, en tant qu'en Français d'abord. Mais on n'est pas la vitrine des Palestiniens, on n'est pas les représentants, les ambassadeurs de la Palestine et de l'Irak. On essaie de les aider dans la limite de nos moyens, tout simplement. Mais sans sacrifier notre place dans ce pays. Pour cela, quand on dit que la France, il y a un antisémitisme en France flagrant, on dit, attendez, s'il vous plaît. On ne voit pas dans chaque arabe un antisémite, dans chaque arabe quelqu'un qui importe l'affaire palestinienne. Nous voulons que le problème, que le conflit israélo-palestinien soit réglé là où il est.
Entretien avec Amar Lasfar, recteur de la mosquée de l'île Sud.
Vous parliez tout à l'heure de l'insulte et de besoin de clarifier, d'avoir des lois vis-à-vis de ce problème. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre? C'est un lobbying à faire auprès du politique. Tout à l'heure, vous me disiez, nous, le fait politique, finalement, c'est pas tellement notre... On ne prend pas les mandats, donc on sera pas aux décisions si on ne prend pas les mandats. C'est quoi? C'est une action de lobbying à faire à ce moment-là auprès des politiques afin de faire reconnaître cette insulte?
Bon, lobbying, c'est un mot fort. Hein. Il faut dire, même si notre société est composée de lobbying. Hein. Le lobbying. D'ailleurs, quand on est lobbying économique, politique, culturel, intellectuel, etc., il ne pose pas problème. Mais quand on est en lobbying, notamment religieux, il pose problème. Donc plutôt, on parle d'une communauté. Une communauté, mais pas qui sombre dans le communautarisme, au sens se replier sur soi-même, refuser l'autre, ne pas partager des choses avec l'autre. Mais nous sommes une composante de la société. Nous voulons à ce que cette composante, les intérêts de cette composante soient sauvegardés. Et il n'y a que le politique, justement, qui puisse défendre et assurer justement ces intérêts-là. Nous l'interpellons, nous essayons d'agir comme toutes les composantes de la société. Donc quand un politique, à la veille d'un mandat, il est censé aller vers les cathos, les protestants, les israélites, les francs-maçons, les homos, etc., pour bien sûr drainer leur voix, eh bien, nous faisons partie de ces groupes, en quelque sorte, qu'il doit visiter. Donc un lobbying structuré au sens lobbying qui existe, moi je ne pense pas. Je ne pense pas parce que l'islam de France, il est quand même pluriel. Il est riche de ses origines, il est riche de ses écoles de pensée, il est riche de ses différences. Donc il ne peut pas se constituer dans un groupe très très homogène, structuré, parce que pour faire un lobbying, il faut justement un leadership, un programme clair, dans laquelle tout le monde se retrouve, ce n'est pas une chose facile. Mais sur l'essentiel, on se retrouve. L'essentiel, c'est quoi? C'est la dignité de l'islam dans ce pays. C'est la représentation digne du culte musulman. C'est régler les problèmes de chaque jour du musulman sur le plan vestimentaire, sur le plan de la nourriture alimentaire, sur le plan de l'assistance, notamment aux détenus, aux malades. J'entends parler de l'aumônerie. Voilà, des problèmes de chaque jour. Et les musulmans veulent que ces problèmes soient réglés. Mais sans pour autant se contenter uniquement de ces problèmes, parce qu'ils ont l'autre revendication, sociale cette fois-ci, citoyenne cette fois-ci, qui touche l'économie, qui touche la santé, qui touche l'éducation, etc. Ce discours-là, c'est un discours que vous trouverez ici à la Ligue islamique du Nord, c'est une marque déposée ici à la Ligue islamique du Nord. Ce discours, on ne le trouve pas dans d'autres mosquées. D'autres mosquées vous parlent religion, 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 rien que religion. Non, dès le début, dès la création de l'association en 1982, on s'est refusé de nous cantonner dans une sphère purement religieuse. La religion fait partie de nos revendications, mais on n'est pas uniquement des religieux. Nous avons d'autres revendications, sinon on est en train de mentir à nos enfants. On leur dit, voilà, priez, vos problèmes sont réglés. Moi, il m'est arrivé de leur dire, je n'ai pas de baguette magique pour régler les problèmes des gens. Peut-être avec la prière, je donne un sens à leur vie. Peut-être avec le respect de la religion, je réponds à des questions de l'être, des questions du devenir. Voilà. Mais l'économique, c'est des lois économiques. Le politique, c'est des lois politiques, tout simplement.
Vous avez l'impression que la communauté, c'est vous qui avez pour lier le mot, hein, à la sorte d'autres communautés, la communauté musulmane aujourd'hui s'ouvre assez à l'extérieur, communique suffisamment, va suffisamment à la rencontre de l'autre.
Nous, on communique, franchement, on communique plus qu'il en faut. Vous me posez une question, je réponds par un texte. Nous parlons beaucoup, nous communiquons beaucoup, mais malheureusement, nous avons l'impression qu'entre nous et la société, il y a un filtre. Il y a un filtre qui filtre en quelque sorte ce que nous voulons dire, parce que les imams, les prêcheurs, je parle de la majorité, de l'immense majorité. Il y a des mauvais musulmans dans ce pays, comme il y a des mauvais chrétiens, des mauvais juifs et des mauvais agnostiques. Le mauvais existe partout. Je ne peux pas vous dire que nous sommes les meilleurs, que les musulmans sont tous à 100% meilleurs. Non. Il y a des mauvais. Mais on focalise souvent sur le train qui n'arrive pas à l'heure. Ça, le problème. On focalise souvent sur celui qui, voilà, le musulman tel, et on montre une image qui choque. Mais on fait pas attention au travail de longue haleine, au travail d'investissement dans le social, dans l'éducation, dans le rappel à la citoyenneté, à l'intégration, au respect, etc. C'est pas ça qui fait vendre en quelque sorte les papiers. J'entends par là une bonne partie notamment du monde médiatique, de nos mass médias, joue ce rôle de filtre. Ils ne laissent pas passer tout ce que nous faisons des manifestations, parfois aucune couverture médiatique. On les invite tous, aucune. On était 15 000 à nos expos. 15 000 personnes à Lille. Une manifestation vraiment de grande envergure. C'était la prière de l'Aïd. On a invité la presse. Personne n'a senti le besoin de se déplacer. Mais si je sors maintenant dans la rue de Marquis et je crie « Ah bah la France !» je ferai la une tout à l'heure, à 20h. Parce que le recteur de la mosquée de Lille a déclaré la guerre sainte. Voilà comment ça se passe. Ça se passe quand vous faites des choses positives qui vous coûtent et de l'énergie, et de l'argent, et de l'investissement humain. Alors, mais ça, c'est pas ça qui... Mais si vous faites quelque chose, même sur le plan individuel, on le met sur le dos de la communauté.
C'était Amar Lassar, recteur de la mosquée de l'Île Sud. Interview, réalisation, Hervé Dujardin.